Et avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans un instant comme tous les matins. Vos questions à la rédaction d'RFI, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes ici à Paris, nos experts, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Pour nous contacter, c'est facile, c'est simple, un seul numéro de téléphone, 33 9 693 693 70, 09 693 693. 1370 si vous êtes en France, et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Et puis dans 30 minutes, nous parlerons ensemble d'un sujet qui vous concerne. Si vous nous écoutez sur le continent africain, vous avez été ou vous êtes certainement en ce moment confronté à une pénurie d'eau. Rares sont les pays épargnés par ce phénomène. C'est le cas notamment du Burkina Faso, où depuis plusieurs semaines, les habitants de la capitale sont confrontés à un déficit d'eau très important. Certains quartiers peuvent rester 3 à 5 jours sans que la moindre goutte ne coule dans les robinets. Du coup, le gouvernement a décidé de procéder, depuis le début de la semaine, à une distribution alternée sur 12 heures. Autrement dit, la moitié de Ouagadougou est désormais approvisionnée de minuit à midi et l'autre moitié de midi à 0 heure. Théoriquement, sur le papier, si j'en crois vos témoignages qui nous arrivent au standard, ça n'a pas l'air de fonctionner. Nous vous donnerons évidemment la parole, et comme ce phénomène est récurrent sur le continent, vos témoignages, où que vous soyez évidemment, nous intéressent. Dites-nous quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne, et que fait-on exactement aujourd'hui pour remédier à ce problème. 33 9 693 693 70. Allez, nous passons au standard. La première question, nous accueillons Blaise. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous êtes à Bamako, au Mali, et vous avez des questions sur la Corée du Nord.
Effectivement Juan, la Corée du Nord ouvre demain le premier congrès de son parti unique. Mm-hmm. À cet effet, je voudrais savoir Juan, pourquoi la Corée du Nord veut organiser ce congrès maintenant alors que le dernier remonte à plus de 40 ans. Quels sont les objectifs de ce congrès? Peut-on attendre à un changement de ligne politique?
Ah, bonne question, effectivement. Stéphane Lagarde est à mes côtés. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan, bonjour Blaise.
Journaliste au service international d'RFI, c'est effectivement un congrès historique du Parti des travailleurs de Corée. Le dernier du genre remonte à 1980, c'était donc il y a 36 ans. Pour l'anecdote, à l'époque, Kim Jong-un, l'actuel dirigeant, n'était même pas né, hein, puisqu'il a, je crois, 33 ans.
C'est ça.
C'est bien ça. Pourquoi vouloir organiser un congrès aujourd'hui?
Alors d'abord, pour répondre à Blaise, il ne faut pas imaginer que les délégués du Parti des travailleurs, on peut dire les deux, en Corée du Nord, ne font rien. Hein. Pendant 40 ans, ils ont aussi des conférences, des réunions de district. Mais effectivement, les congrès, c'est pour les moments très importants dans l'histoire de la Corée du Nord. Donc, il y en a eu, depuis 1946, la date du premier, eh bien, il y a eu 7 congrès en tout. Hein. On est au 7e, donc c'est pas beaucoup. Mmh. Et c'est à chaque fois, c'est un moment rare. Je vais pas vous les faire tous, mais en 49, par exemple, deuxième congrès du parti des travailleurs nord-coréens, eh bien, il y a les deux Corées qui se divisent. On pense déjà à une division des deux États. Donc, il y a un congrès. En 1956, ça chauffe dans le bloc de l'Est, c'est le rapport Khrouchtchev, un fameux rapport qui dénonçait les exactions de Staline. Donc à ce moment-là, comme la Chine, on se détache un petit peu de l'ex-URSS, ça donne encore un congrès. Puis il y a le congrès de 1980, vous venez d'en parler, c'est important, hein, là, le Kim Il-sung, à l'époque le fondateur de la République populaire et démocratique de Corée du Nord, passe la main à son fils, Kim Jong-il, hein, il faut bien suivre, hein, dans la dynastie des Kim, là on est au troisième Kim, et là le petit-fils, donc Kim Jong-un, va être couronné, on va dire, donc au cours de ce 7e congrès.
Alors, à quoi peut-on s'attendre lors de ce congrès? Est-ce qu'il va y avoir un changement de ligne politique, comme nous le demande Blaise de Bamako?
Alors ça, on va le voir, mais déjà, c'est vraiment un couronnement. Hein. On peut dire que c'est une affaire intérieure, parce que même si Kim Jong-un est en place depuis 4 ans, on avait dit, il est jeune, ce leader, il a 33 ans, il ne va pas résister, il y aura le régent ou ses rivaux qui vont le faire tomber. Ben non, il a fait une purge pendant 4 ans, il s'est débarrassé de tous ses rivaux. Il a quand même un essai nucléaire derrière lui, hein, 6 janvier dernier, des tests de missiles, donc c'est quelqu'un qui a montré son pouvoir et qui est bien aux commandes.
Donc ça sera l'occasion pour lui d'asseoir davantage
c'est
son pouvoir.
Ça, place. C'est très important, ces congrès, c'est pour couronner. Alors, le Rodong Shinmun, c'est un journal officiel, c'est le journal du Parti des travailleurs coréens, donne même à Kim Jong-un aujourd'hui le titre de son grand-père. Vous imaginez l'honneur, on l'appelle désormais le grand soleil du 21e siècle, Kim Jong-un, l'actuel dirigeant. Mmh. Son grand-père, c'était le grand soleil de l'humanité, carrément. Et donc là, il a un honneur suprême. Il est également qualifié, ce congrès, cet événement, de sacré par ce journal. Donc c'est vraiment quelque chose d'un couronnement du sacre, hein, comme on avait des sacrements d'empereur. Et puis effectivement, on attend des réformes, des annonces en tout cas, des réformes économiques. Il y a le discours de 2012 qui a beaucoup marqué les Nord-Coréens. En 2012, donc juste après, 4 mois après la mort de son père, Kim Jong-un a dit, il faut que les Nord-Coréens arrêtent de se serrer la ceinture. Il faut que désormais, dans ce pays, on mange à sa faim. Parce que évidemment, il y a le souvenir douloureux des années 80, hein, du précédent, donc avec la grande famine en Corée du Nord. Donc il a dit, on va faire des réformes économiques. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des quartiers nouveaux. C'est un pays qu'on observe pas mal par satellite, hein, la Corée du Nord. Malheureusement, il y a peu d'envoyés spéciaux, il y a peu d'observateurs qui peuvent se promener librement dans ce pays, mais on voit, et les observateurs qui s'y rendent voient, par exemple, des nouveaux quartiers à Pyongyang. Mmh. Il a fait des pistes de ski, enfin, il a fait...
L'idée à terme, c'est de ressembler un peu au modèle chinois.
Oui, mais on est loin du compte, parce que pour ressembler au modèle chinois, il faudrait transformer complètement la société et s'ouvrir un peu plus. Mmh. Hein, le capitalisme rouge à la chinoise, ça demande un peu d'ouverture aussi, un tout petit peu d'ouverture politique quand même. Là, on n'est pas prêt à ça. Toutefois, il y a une nouvelle théorie qui va être marquée. C'est pas une nouvelle théorie. Vous savez, Kim Jong-un veut ressembler à son grand-père parce qu'il est très populaire, Kim Il-sung. Donc, il lui ressemble physiquement. D'ailleurs, il va aussi remettre au goût du jour la doctrine dite du Byung-jin. C'est, on peut dire, le parallélisme ou la double poussée, hein, même si c'est pas très joli. À la fois pousser le nucléaire, la dissuasion nucléaire, l'armement en tout cas, et à la fois l'économie. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des annonces d'ordre économique pendant ce congrès grâce à cette doctrine dite du Byung-jin.
Congrès historique. Donc, à partir de demain, j'ai cru comprendre qu'il devrait durer 3-4 jours.
C'est ça. On ne sait pas trop. On ne sait pas encore précisé. On ne sait pas non plus la liste des invités.
On me dit que Blaise a une dernière question à vous poser, Stéphane. Blaise ?
Oui, Juan.
On vous écoute.
La dernière question est de savoir quels moyens disposent les Nations Unies pour empêcher une nouvelle essai nucléaire.
Stéphane Lagarde.
Alors, très peu de moyens, très honnêtement. Ils vont renforcer encore, s'il y avait un nouvel essai qui est attendu, hein, on ne sait pas, mais enfin, les services de renseignement sud-coréens disent qu'il y aura probablement un essai nucléaire pendant ce congrès. En tout cas, si ça a lieu, ils pourraient renforcer encore les sanctions, renforcer l'embargo, mais ça a peu d'effet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le développement de la dissuasion nucléaire est inscrit dans la constitution nord-coréenne. Je vous ai parlé du Byung-jin. On militarise l'économie, donc on fait à la fois de l'économie et de l'armée. Et par exemple, Rodong Shinmun, pour ne pas le citer, enfin, ce journal officiel qualifie la dissuasion nucléaire comme une épée précieuse. Donc, on n'est pas prêt de lâcher le morceau là-bas.
À suivre donc. Merci beaucoup Stéphane Lagarde. J'envoie évidemment les auditeurs d'RFI à notre site rfi.fr et à votre blog Encre de Chine, où vous parlez notamment de ce congrès historique. 33 9 693 693, ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Simon Rosé du service science nous rejoint à l'instant. Bonjour Simon.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous ce matin. Cheikh Porgo nous appelle de Kati. Alors Kati, c'est à une quinzaine de kilomètres de Bamako, au Mali. Bonjour Cheikh Porto.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions concernant la découverte de 3 exoplanètes.
Oui. 3 exoplanètes potentiellement habitables ont été découvertes. J'aimerais savoir où se situent ces planètes et comment elles ont été découvertes. Qu'est-ce qui permet de dire aux scientifiques que ces planètes sont potentiellement habitables ? Qu'est-ce qu'on de ces planètes ?
Alors, à chaque fois qu'on annonce la découverte de planètes, ça suscite énormément de questions au standard. Simon Rosé, faut préciser que c'est une équipe internationale de l'Université de Liège, en Belgique, hein, qui a mis en évidence l'existence, hein, de ces 3 exoplanètes qui hébergent potentiellement des traces de vie. Il y a eu un emballement médiatique autour de cette annonce. On va y revenir évidemment avec vous. Alors, on a entendu que ces planètes se trouvaient à 39 années-lumière de nous, soit, si mes calculs sont bons, 390 000 milliards de kilomètres. C'est pas la porte à côté.
Si. En termes astronomiques, c'est pas si loin, hein, pour se faire une idée. L'étoile la plus proche de nous, c'est Alpha Centauri, Alpha du Centaure, qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Et pour donner un ordre de grandeur, le rayon de tout l'univers observable, c'est 41 milliards d'années-lumière. Donc à 39 années-lumière, ces 3 planètes, en fait, elles sont pas si loin de nous que ça.
Ouais, donc c'est un peu la banlieue de la Terre. Cheikh nous demandait comment a-t-on fait pour découvrir ces 3 exoplanètes.
Alors, il y a y a plusieurs méthodes pour détecter des exoplanètes. Là, c'est un télescope qui est au sol, qui est installé au Chili, qui a fait l'observation, qui a été utilisé par cette équipe belge. Et en fait, ils ont utilisé ce qu'on appelle la méthode du transit. C'est un principe qui est assez simple. En fait, avec le télescope, on va fixer une étoile. Et quand il y a une planète qui orbite cette étoile, qui va passer entre l'étoile et nous, il va y avoir une baisse de luminosité. Mmh. En fait, on va fixer l'étoile, la luminosité va baisser quand la planète va passer devant, et après elle va remonter une fois que la planète a fini de passer devant. Et en calculant, en mesurant comme ça le niveau de cette baisse, on peut en déterminer la taille de la planète. En voyant le temps qu'elle a mis à traverser le champ de vision, mmh. on peut calculer sa vitesse. Et donc, on arrive comme ça à avoir une assez bonne idée de sa taille et de son orbite, à peu près.
Alors, on nous dit que ces trois exoplanètes sont potentiellement habitables. Déjà, expliquez-nous ce qu'on entend par zone habitable.
Alors, c'est la zone qui est autour d'une étoile où la température, en fait, est telle pour que l'eau soit liquide. Mmh. Ça veut pas dire plus que ça. Ça veut pas dire qu'il y a de l'eau, oui. Ça veut pas dire qu'il y a de la vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que s'il y avait de l'eau, elle serait liquide. Mais la distance à l'étoile, en plus, c'est même pas le seul critère. Parce que si une planète qui est dans cette zone, mais qui a par exemple une atmosphère qui est très dense, qui provoque beaucoup d'effets de serre, c'est par exemple le cas de Vénus dans notre système solaire, bah, il pourrait pas y avoir d'eau liquide parce qu'il ferait des températures infernales justement à cause de l'effet de serre de cette planète, même si elle se trouve dans la zone habitable. Donc c'est pas le seul critère.
D'accord. Et en même temps, il y a eu un emballement médiatique, il y a eu également un enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Pourquoi alors ?
Bah justement, pas tant que ça. Hein. C'est un peu ça qui est rigolo. L'étude qui est parue dans le magazine Nature en début de semaine, elle est très tempérée. Hein. L'emballement, il vient surtout de l'université de Liège qui a fait un communiqué de presse. Elle est un peu très enthousiaste, justement.
Oui, trop,
les scientifiques, voilà, sont très... Mais bon, c'est toujours comme ça. Hein. Et après, c'est la reprise médiatique qui a fait que, et l'emballement, parce que on reprend ce communiqué de presse issu de l'université.
Mais et on comprend l'enthousiasme aussi des auditeurs qui veulent comprendre, tiens, de la vie extraterrestre, forcément, ça interpelle.
Ouais, voilà, c'est le jeu. Alors qu'on ne sait pas exactement comment et ce que sont ces trois planètes. Hein, leur étoile... Bon, on connaît leur étoile, c'est ce qu'on appelle une naine rouge, c'est une étoile qui est plus petite que le Soleil, qui est plus froide, et ce qui permet, vu qu'elle est plus froide, ça permet à ces planètes d'orbiter d'assez près. Les deux premières, d'ailleurs, elles se trouvent juste à la limite inférieure de cette zone habitable dont on parlait, mais en plus, elles se trouvent du mauvais côté de la zone habitable, donc elles sont trop proches de leur étoile. On ne connaît pas non plus leur masse, on n'est même pas sûr qu'elles soient rocheuses, il peut s'agir de planètes gazeuses, donc là, pour le coup, pour la vie, c'est pas génial. Et quant à la troisième, on ne connaît pas encore sa distance par rapport à l'étoile, donc il y a encore beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir les qualifier d'habitables.
Donc finalement, si je comprends bien, on ne doit pas attendre grand-chose de cette découverte.
Il manque juste trop d'informations pour donner une réponse définitive, mais ce qui est très intéressant avec ce trio, c'est qu'elles sont proches et elles sont à portée de nos télescopes spatiaux, je vais y arriver. Hubble, notamment, même s'il est en fin de vie, peut avoir des images et surtout son successeur, le James Webb, qui sera lancé en 2018, lui sera assez puissant pour potentiellement étudier leur atmosphère, étant donné qu'elles en ont une, mais ce sera la première fois qu'on pourra étudier des exoplanètes. Donc des planètes en dehors de notre système solaire, on pourra les étudier assez finement et ça c'est une première.
Merci Simon Rosé d'être venu répondre à chaque Porgo qui nous appelait de Cathy au Mali. Il est 10h22 ici à Paris, n'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat du jour, vos témoignages, vos réactions sur les pénuries d'eau. De nombreux pays sont actuellement confrontés à ce problème, à ce phénomène sur le continent africain. On a envie de vous entendre ce matin, dites-nous comment vous vivez avec toutes ces difficultés au quotidien, hein, les conséquences évidemment. Sociale, économique également, 33 9 693 693 70. Des questions maintenant concernant le procès LuxLeaks. Depuis 10 jours, on vous en parle sur notre antenne. Trois Français, deux lanceurs d'alerte et un journaliste comparaissent devant le tribunal correctionnel du Luxembourg. Ils sont accusés d'avoir diffusé des documents révélant les pratiques d'évasion fiscale de multinationales établies au Luxembourg, des pratiques qui ont permis à ces multinationales d'économiser des milliards d'euros d'impôts, ce qui suscite évidemment là aussi des questions au standard. Si je retrouve ma petite fiche d'abord. Ah voilà, on va commencer avec Aboudé. Bonjour Aboudé.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Excusez-moi, j'avais du mal à retrouver votre nom.
Il n'y a pas de problème.
Vous nous appelez de Clermont-Ferrand.
Exactement.
On vous écoute.
Voilà, en fait, depuis l'ouverture du procès, on entend parler de tax ruling. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qu'étaient les tax rulings. Et est-ce qu'elles étaient bien légales au Luxembourg? Et j'avais une autre question pour savoir que risque la société PwC après avoir dissimulé donc des documents d'évasion fiscale.
Ouais, PwC étant le cabinet d'audit qui a porté plainte contre ces trois Français. Bonjour Manon Aubry.
Bonjour.
Vous êtes responsable plaidoyer justice fiscale à Oxfam, qui est une ONG qui lutte contre les injustices et la pauvreté. Alors effectivement, dans le jargon financier, les combines qui sont révélées au travers de cette affaire s'appellent les tax rulings. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
En pratique, c'est assez simple. Les tax rulings, c'est un document officiel par lequel l'administration des impôts confirme à une entreprise la légalité de sa situation. Donc concrètement, c'est une grande entreprise. Là, celle qui était mise en cause, il y avait notamment Amazon, Starbucks, etc. Mm-hmm. Et ces entreprises s'adressent au fisc luxembourgeois et leur demandent de confirmer si leur situation fiscale est légale et conforme à à l'administration et aux règles luxembourgeoises. Et en fait, c'est une manière pour la grande entreprise de négocier avec le fisc luxembourgeois un taux d'imposition au rabais, sachant que le taux théorique au Luxembourg est assez élevé, mais en pratique, il existe de nombreuses exemptions qui peuvent être formalisées sur ce papier, et donc le rescrit fiscal en français pour le tax ruling.
Voilà, et les multinationales parviennent à payer quasiment 0 € d'impôts grâce à cette pratique qui est légale au Luxembourg.
Elle est complètement légale au Luxembourg, mais elle est aussi complètement légale dans d'autres pays européens. Et c'est là notamment la Belgique. Et c'est là toute la difficulté de quand on parle d'évasion fiscale, c'est qu'on est dans du domaine du légal, où au Luxembourg, il est normal pour une grande multinationale d'aller négocier sa facture fiscale avec le fisc. Et c'est une manière pour l'administration luxembourgeoise d'attirer les grandes multinationales sur son sol. Et on l'a vu, de piller finalement les recettes fiscales des autres pays avec l'impact qu'on connaît pour nous tous qui payons nos impôts.
Ouais, donc c'est légal. La seule chose, c'est qu'effectivement, ces pratiques privent les États de recettes fiscales très très importantes et que nous, simples citoyens, nous devons, quoi qu'il arrive, payer nos impôts alors que ces multinationales, vous citiez quelques marques, elles sont extrêmement importantes, parviennent à ne pas en payer. Autrement dit, pour répondre à la deuxième question de notre auditeur, ce fameux cabinet d'audit ne risque rien.
Il ne risque rien et c'est là toute l'absurdité de l'évasion fiscale, c'est que le procès qui se tient en ce moment au Luxembourg, sur le banc des accusés figurent les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui ont copié les documents qui permettent de prouver l'évasion fiscale à échelle industrielle pratiquée au Luxembourg. Et en revanche, on ne retrouvera jamais sur le banc des accusés ni le cabinet d'audit PwC qui facilite et organise l'évasion fiscale, ni les 340 multinationales qui ont bénéficié de ce système et dont il a pu être prouvé qu'elle faisait de l'évasion fiscale, ni même l'administration luxembourgeoise ou Jean-Claude Juncker qui était à l'époque des faits Premier ministre du Luxembourg et qui évidemment bien au courant de toutes ces pratiques-là.
Évidemment, mais Jean-Claude Juncker qui disons-le, il y a 2 ans, disait que ces pratiques ne correspondaient pas à l'esprit de justice fiscale et de normes éthiques et morales. Donc il reconnaît aujourd'hui, maintenant qu'il est président de la Commission européenne, que bon, il va falloir peut-être faire le ménage. Manon Aubry, il nous reste à peine 2 minutes. Je voudrais qu'on accueille un dernier auditeur sur les LuxLeaks. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Lomé, au Togo.
Oui.
On vous écoute.
Ouais, je veux savoir, pour qu'on fasse cette affaire, est-ce qu'il existe une protection pour les lanceurs d'alerte?
Est-ce qu'il existe des protections pour les lanceurs d'alerte? Le réseau téléphone était très mauvais. Manon Aubry, c'est vrai que cette affaire, comme celle des Panama Papers, pose la question des lanceurs d'alerte qui sont mal protégés par la législation en Europe.
Donc là, on a le meilleur exemple de leur manque de protection. Les 3 lanceurs d'alerte qui sont poursuivis risquent 5 à 10 ans de prison ferme, plus d'un million d'euros d'amende. Et la vraie difficulté, c'est que aujourd'hui, ce qui est protégé, c'est le secret des affaires et non pas les lanceurs d'alerte. Autant d'un point de vue juridique et d'une aide juridique, ils risquent gros en termes de peine de prison ferme et d'amende. Et puis derrière, il n'y a pas de protection aussi pour assurer leur avenir professionnel. Et donc, qu'il n'existe pas en Europe de statut unique qui protège les lanceurs d'alerte, ni en France d'ailleurs, et ça va être l'objet d'un débat qui va arriver dans la loi Sapin, qui va être discutée à l'Assemblée.
Sapin 2.
La loi Sapin 2, qui va être débattue à l'Assemblée dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on protège
davantage les multinationales, c'est ce que vous disiez, que les lanceurs d'alerte, effectivement. Merci beaucoup Manon Aubry d'Oxfam France d'avoir été avec nous ce matin. D'autres questions à la rédaction demain. Nous, quant à nous, on reste évidemment. On va parler des pénuries d'eau dans 10 minutes.
Priorité santé. Claire.